Le journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est notamment l'adoption définitive du projet de loi sur la fin de vie. Les députés et les sénateurs sont finalement parvenus à s'entendre. Le texte sera donc voté dans les heures qui viennent. Il accorde de nouveaux droits aux patients, nous dira dans un instant Laure de Vulpion. La colère des chauffeurs de taxi, ils sont toujours en grève. Matignon a pourtant désigné hier un médiateur. Reportage à suivre de Sandrine Etoa-Andeg. Enfin, la visite en France du président iranien Hassan Rouhani. Dans ce journal, vous entendrez l'analyse d'un avocat franco-iranien qui évoque les opportunités économiques pour les grandes entreprises françaises. Le vote aura lieu à main levée à l'Assemblée cet après-midi et puis dans la foulée, la proposition de loi sera, sauf surprise, adoptée mot pour mot par les sénateurs. 10 ans après la fameuse loi Leonetti, le Parlement va donc entériner aujourd'hui Laure de Vulpion un texte qui, je le disais, accorde de nouveaux droits aux personnes en fin de vie.
Du nouveau, certes, mais rien de révolutionnaire. En effet, pas de droit à l'euthanasie ni au suicide assisté dans la nouvelle loi. En revanche, un droit à une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, explicitement énoncé. Mais ce droit sera réservé, à leur demande, aux personnes en toute fin de vie et dont la souffrance est insupportable. Autrement dit, il s'agira d'un droit à une agonie abrégée de 3, 4 ou 5 jours seulement et à condition de satisfaire aux conditions fixées par la loi. Précisément, il s'agissait d'actualiser la loi Leonetti qui avait instauré en 2005 un droit à laisser mourir. Droit pour le patient à refuser l'acharnement thérapeutique et à demander l'arrêt des traitements, y compris l'alimentation et l'hydratation. Ce qui avait créé des situations difficiles à supporter pour soi-même ou pour un proche, à savoir la mort de faim et de soif, qui peut être lente et douloureuse selon qu'elle est accompagnée ou pas de soins palliatifs, sachant qu'ils ne sont pas mis en œuvre partout. Il fallait donc avancer, mais sans en arriver au « faire mourir » réclamé de longue date par les partisans de l'euthanasie et du suicide assisté. En effet, le président de la République souhaitait un texte consensuel. On y est donc arrivé avec ce droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, expression de Jean Leonetti, médecin de son état, droit nouveau, mais droit à minima. Quant aux directives anticipées que chacun pourra rédiger pour s'opposer à l'avance à tout acharnement thérapeutique, elles seront contraignantes mais non opposables aux médecins en cas d'urgence vitale ou s'ils les jugent manifestement inappropriés. Cherchez l'erreur.
Manuel Valls défendra ce matin devant la commission des lois de l'Assemblée nationale le texte censé réviser la Constitution. Le projet évoque la question de l'état d'urgence mais aussi la déchéance de nationalité. Les débats doivent eux débuter la semaine prochaine au Parlement. Le Premier ministre qui a choisi le député socialiste de Côte d'Or, Laurent Grandguillaume, comme médiateur pour tenter de résoudre le conflit des chauffeurs de taxi, un conflit qui se poursuit ce matin. Les professionnels du volant n'ont pour l'instant pas l'intention de reprendre le travail. C'est un reportage à Paris de Sandrine Etoa-Andeg.
Le ton est donné, porte-maillot, où sont garées des centaines de voitures de taxi.
On revient au même point, on ne bougera pas. On n'a pas fait presque 1000 bornes pour rien.
Pour la plupart des chauffeurs, l'offre de concertation de Manuel Valls, c'est du réchauffé.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 3 fois qu'il nous propose des médiateurs, c'est faire diversion.
C'est quoi ce médiateur? Tous les 3 mois, on nous reporte 3 mois un médiateur, 3 mois un médiateur.
Robert est venu exprès du Lot-et-Garonne.
Le temps passe en attendant. En attendant, ben nous, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires. Peut-être bientôt 40, peut-être bientôt 50. Et puis peut-être bientôt, ben on n'aura plus rien.
La faute, dit-il, au VTC qui casse les prix et ne respecte pas la loi Thévenoud. La promesse du Premier ministre de renforcer les contrôles ne suffit pas. S'étrangle Rally, le taxi parisien depuis 6 ans.
Le VTC, il fait le travail exactement comme moi. Il charge sur la rue, dans la station, dans le dépose minute, dans les gares, dans les aéroports. C'est quoi la différence? On a mal, on a travaillé 7 sur 7, 15 sur 24, 365. On travaille toute l'année, on a mal, on a sacrifié nos vies, nos enfants et tout. Mais pitié, pitié, pitié.
Comme nombre de ses collègues, il réclame une compensation financière ou plus radicale, la suppression pure et simple des VTC.
Pas de nomination de médiateur en revanche pour les enseignants qui contestaient une fois encore hier la réforme du collège. 22% de grévistes dans le secondaire selon le ministère de l'Éducation nationale. Plus du double selon les syndicats. Enfin, les agents de la fonction publique étaient eux aussi dans les rues des grandes villes de France. La CGT estime entre 130 000 et 150 000 le nombre de manifestants. Leur ministre de tutelle, Marie-Lise Lebranchu, a répété que les fonctionnaires ne devaient pas s'attendre à une grosse augmentation de leur point d'indice. Les agriculteurs, en revanche, vont pouvoir compter sur une rallonge financière de 290 millions d'euros, somme allouée par Stéphane Le Foll pour aider les éleveurs et notamment ceux qui sont touchés en ce moment par la grippe aviaire. Anne Lorchouin.
2015 fut une année noire, 2016 commence sous les mêmes auspices, avec en plus de la crise des cours, laitiers, bovins et porcins, l'épidémie de grippe aviaire qui se développe depuis novembre. 69 foyers ont été détectés à ce jour. Les exportations de foie gras, bien que l'influenza ne soit pas transmissible à l'homme, ont chuté et les éleveurs et accouveurs de volailles seront les principaux bénéficiaires de la rallonge financière allouée par le ministre, 130 millions d'euros pour des mesures d'assainissement des élevages. Le reste, soit 125 millions d'euros, sera réparti entre les éleveurs et les producteurs de céréales et de légumes qui connaissent à leur tour la crise. Tout cela en plus de 500 millions d'euros d'allègement de charges en attendant le versement des aides de la PAC. Un soutien évidemment bienvenu, mais qui ne suffira pas à enrayer les pertes de prix liées à la baisse des cours, ni celles liées aux mesures draconiennes dites de vide sanitaire. Dans plusieurs élevages de volailles du sud-ouest, un arrêt total de l'élevage suivi d'une période de quarantaine. La colère des éleveurs vient donc de gagner le sud-ouest, alors même qu'elle continue, voire s'étend en Bretagne, pour d'autres raisons. L'État a pris et continuera de prendre sa part dans cette crise, affirmait hier Stéphane Le Foll, qui sait pertinemment que le gouvernement seul ne pourra pas régler à lui seul la crise de modèle que subit l'élevage français.
Et dans l'ouest de la France, la circulation s'annonce très difficile aujourd'hui. Les agriculteurs ont en effet prévu une nouvelle journée de barrage avant une table ronde demain à la préfecture de Rennes. L'avenir de la filière nucléaire donnera lieu tout à l'heure à une réunion de travail à l'Elysée. Le même jour, un conseil d'administration d'EDF doit justement évoquer la suite pour Areva. Poussé par l'État, l'électricien français doit en effet revoir ses priorités pour sauver le géant du nucléaire en reprenant, entre autres, l'activité liée au réacteur. Jean-Marc Chardon.
Impossible pour EDF de différer des décisions absolument stratégiques au tournant de 2016. Impossible car il y a nécessité pour le groupe de faire des arbitrages qui se chiffrent à tous les coups en milliards d'euros. Dans l'immédiat, c'est l'acquisition du pôle réacteur d'Areva qui doit être assumée. Pas question pour l'électricien de tout prendre à sa charge, trop lourd. Il faudra le renfort du japonais Mitsubishi et d'un gros électricien chinois. Il monterait jusqu'à 35% du capital et dans cette construction, Areva conserverait tout de même une partie de 15% de son ancienne activité. L'État, toujours majoritaire, dont le capital reste à la manœuvre, et pour cause, avec 37 milliards de dettes, EDF n'a pas les coups des franches, obligé de s'endetter pour payer les dividendes, de céder un certain nombre d'activités et de lancer un plan social, le premier de son histoire, afin d'alléger ses coûts. Et des économies, il y en aura d'autres à faire, car l'État pousse les dirigeants d'EDF à régler le contentieux avec les autorités finlandaises pour les retards d'un EPR trois fois plus cher que prévu, 9 milliards au final. Difficile dans ces conditions de confirmer immédiatement la participation au projet d'investissement dans deux réacteurs en Grande-Bretagne, le projet Dinkley Point, évalué à quelque 18 milliards d'euros. Autant d'investissements lourds à financer, et cela parallèlement aux énormes dépenses destinées à la maintenance et au renouvellement du parc nucléaire.
Après Rome, le président iranien est attendu à Paris, une visite de deux jours avec demain une rencontre avec François Hollande. Les Iraniens, des partenaires désormais tout à fait fréquentables depuis l'accord sur le nucléaire et la fin des sanctions internationales. Pour l'avocat franco-iranien Ardavan Amir Aslani, il y a là évidemment de belles opportunités à saisir pour les entreprises françaises.
Les Iraniens ont leurs priorités économiques. L'industrie des hydrocarbures, le secteur aéroportuaire, le traitement des eaux. Pour chaque problématique iranienne, il y a une réponse française de qualité. Total est candidat pour intervenir sur l'organisation, l'exploration et l'exploitation des gisements miniers d'hydrocarbures iraniens. Vinci est candidat pour la gestion des aéroports iraniens. Suez Environnement et Veolia peuvent être intéressés par la question cruciale du traitement des eaux en Iran. PSA et Renault peuvent être intéressés également par le secteur automobile iranien qui est le plus important de tout le Moyen-Orient. Donc on constate qu'à chaque fois qu'il y a un besoin iranien, il y a une réponse française de qualité en face.
Et les entreprises françaises sont les mieux placées pour répondre justement à cette demande iranienne dans certains domaines ?
Elles ont bien entendu leurs concurrents en Europe et en Asie en particulier, mais je trouve que les Iraniens vont regarder avec un certain regard favorable le choix des entreprises françaises. Déjà parce qu'elles ont des qualités, mais également parce que les Iraniens ont identifié en la France le pays, si j'ose dire, le moins amical à l'égard de l'Iran parmi les 5 pays membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Et donc, voyant le comportement, si j'ose dire, d'un certain nombre de pays arabes du Golfe Persique qui, à travers les contrats d'armement ou les grands projets d'infrastructure, ont pu intervenir dans la vie politique française, infléchir la diplomatie française, je pense que les Iraniens vont vouloir poursuivre le même chemin.
Ardavan Amir Aslani était hier soir l'invité du journal de 22h sur France Culture, présenté par Stanislas Vazak. Et puis à 7h40 sur France Culture, vous évoquerez évidemment avec votre invité du matin, Guillaume Erner, la visite en France du président iranien.
Et oui, on demandera à Laurent Fabius si ces bonnes affaires que la France entend faire avec l'Iran peuvent gommer certains aspects déplaisants du régime, par exemple.
Terminons ce journal en évoquant cette réunion aujourd'hui à Sofia, en Bulgarie, destinée à relancer un projet de gazoduc. Les Russes sont évidemment à la manœuvre, mais les Bulgares ne veulent pas dépendre uniquement de Moscou, d'où leur volonté, Bruno Cadenne, de diversifier leurs sources d'approvisionnement.
Fin 2014, en pleine crise ukrainienne, la Russie abandonne le projet de gazoduc South Stream qui devait traverser la Bulgarie. Mais aujourd'hui, les tuyaux sont toujours entreposés dans les ports bulgares de Varna et Bourgas. Alors le premier ministre bulgare, le démocrate chrétien Boyko Borisov, veut relancer en plus modeste ce projet. Il s'agirait toujours d'acheminer du gaz russe sous la mer Noire, vers la Bulgarie, puis la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, mais dans des proportions moindres, 10 milliards de mètres cubes par an, au lieu des 63 milliards initialement prévus. Pour compenser, la Bulgarie envisage de créer, toujours dans le port de Varna, au bord de la mer Noire, un centre de distribution du gaz baptisé Balkan. Il pourrait également recevoir du gaz du futur projet TAP, qui doit transporter du gaz d'Azerbaïdjan depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Italie, ainsi que du gaz liquide en provenance de Grèce. La Commission européenne, qui était opposée à South Stream, a donné son accord de principe à ce nouveau projet Balkan, qui verrait le jour entre 2021 et 2023, à condition qu'il soit rentable. Un projet qui intervient au moment où le gazoduc russo-turc Turk Stream est compromis par les tensions diplomatiques entre Moscou et Ankara sur la Syrie. La Bulgarie est également au cœur d'un autre projet de gazoduc, baptisé East Ring. Il s'agirait là d'acheminer du gaz de la mer Caspienne et d'Asie centrale en Europe centrale via la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. La Bulgarie, qui dépend très fortement de la Russie pour son gaz, essaie donc de diversifier ses approvisionnements.